Bonjour à tous. Donc, j'interviens aujourd'hui en lieu et place de Jean-Jacques Romaté, le président du Centre e-Santé, que je vous demande de bien excuser, de bien vouloir excuser. Donc, l'orientation, effectivement, de la présentation est autour de la méthode et outils de l'e-Santé. Je vais essayer de l'étayer par des exemples concrets de projets que l'on a en cours et d'accords de consortium que l'on a en cours, mais qui ne seront pas développés dans cette présentation. L'objet étant vraiment d'axer sur les missions du Centre et sa boîte à outils. Donc, ça a été d'un petit peu tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec le docteur Spinoza. Beaucoup reste à faire, et on a été très, très déçus, nous, par exemple, quand on a vu que le décret sur la télémédecine étant sorti, aucun impact n'avait été pris en compte dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale, qui a quand même été une vraie claque pour les professionnels. Donc, la loi hôpital, patient, santé, territoire traite de façon conséquente de la télémédecine, et c'est une avancée. Donc la télémédecine dans toutes ses acceptions, et elles sont nombreuses, c'est-à-dire que vous avez effectivement plusieurs processus qui sont à l'œuvre, de la téléconsultation à la téléexpertise, en passant par la téléassistance, et effectivement aussi, dans le cas du décret, la régulation. Pour avoir été directrice du pôle de médecine d'urgence au CHU Toulouse, je partage également votre hésitation, votre interrogation sur l'intégration de cette dimension dans le décret. Et par contre aussi, il n'y a pas la téléprescription, ce qui, moi, m'a personnellement un petit peu étonnée quand même. Donc, autre dynamique, la création des agences régionales de santé qui, pour nous, régionalement, mais c'est le cas aussi au niveau de la DGOS, change un petit peu la dynamique, puisque maintenant, sanitaire et médico-social sont liés, donc ça change effectivement beaucoup de choses en termes d'organisation des filières de soins. Mais ça révolutionne aussi la façon dont est pensée la politique régionale de santé. Bien entendu, les espaces numériques régionaux de santé, enfin une maîtrise d'ouvrage solide au niveau régional pour penser les processus autour de la télésanté, et pas seulement, puisque le DMP est quand même une action phare. Mais là encore, on voit bien l'intérêt d'une structuration beaucoup plus complète de ces maîtrises d'ouvrage en région. Et la ZIP, qui, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, vous connaissez tous la carte du tendre de tout ce dispositif, mais pour vous témoigner de la vie d'une région, c'est vrai que cette structuration est quand même fort importante et très guidante dans nos actions. J'ajouterai, pour lui rendre hommage, parce qu'il est très tenace, il continue à prêcher la bonne parole, je mentionnerai le rapport du député Pierre Lasbordes, qui, de son propre aveu, n'a pas encore fini justement son chemin de croix, puisque beaucoup de choses restent encore à construire en France autour de la télésanté. Lui plaide et pour une sorte d'agence ou un institut interministériel autour de cette activité. Et je plaide avec lui parce qu'encore une fois, concrètement sur le terrain, c'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui. Et j'en suis pratiquement l'illustration, puisqu'en étant directeur d'hôpital et maintenant ayant en charge une structure comme le centre e-santé, qui a été nursé et accompagné par le ministère de l'Industrie, je sais quelle est la difficulté de cette bicéphalie. Donc, je viens d'en parler, le Centre national de référence santé à domicile et autonomie a été créé fin 2009 par le ministère de l'Industrie. Il se trouve que plusieurs des fondateurs du Centre e-Santé sont également fondateurs du Centre national de référence et nous nous inscrivons complètement dans cette mouvance. Donc l'objectif de la télésanté, en tout cas la façon dont nous travaillons à Toulouse en termes de méthode, on vise bien effectivement l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de l'accès aux soins en zone de désertification médicale. Il se trouve que la région Midi-Pyrénées est extrêmement propice à ce type d'expérimentation. Donc c'est une région grande comme la Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui a effectivement des zones très très reculées, des zones désertiques, des zones montagneuses, et aussi des perspectives. Je vois Hervé Denu d'Ariège Expansion est présent dans la salle. En Ariège, par exemple, dans les 5 ans à venir, il y aura moitié moins de médecins généralistes. Moitié moins. Et déjà, il n'y en a pas énormément. Le maintien à domicile et le retour rapide à domicile dans des conditions de qualité et de sécurité optimales. Donc là aussi, les fondateurs du centre qui sont issus du monde hospitalier et médical vraiment sont dans cette optique-là, avec un autre objectif qui est la réduction des coûts d'hospitalisation. Comment, en matière de sortie précoce de l'hôpital, peut-on sécuriser le continuum de soins jusqu'au domicile? Donc, je vous ai mis deux exemples sur lesquels je vais passer vite, mais l'ambition de l'e-santé, l'ambition des projets que l'on développe, ben, sont illustrés par ces deux slides. Marie, elle est diabétique. Alors là, elle est un peu dépressive hein, sur la photo, mais je pense que pour connaître des diabétiques de type 2, la vie est quand même pas aussi noire. Donc aujourd'hui, elle voit son médecin traitant régulièrement, elle est en forme, mais elle a de l'hypertension, du cholestérol, elle prend des médicaments, mais elle ne sait pas très bien à quoi ça sert. Son médecin traitant ne sait pas comment la motiver à se prendre en charge. Elle-même ne sait pas comment s'organiser pour sa prise en charge dans sa vie quotidienne. Son médecin est conscient des risques qu'elle encourt à terme et des complications graves, infarctus, insuffisance rénale, plaie du pied. Mais il n'arrive pas à partager cette conviction avec sa patiente. Donc ça, c'est un cas pratique qui a été décrit par un diabétologue, hein, non pas par moi, et qui est issu donc de sa pratique. Comment lui voyait la prise en charge de sa patiente augmentée par la télésanté et l'e-santé? Ben, elle est suivie par l'hôpital si besoin. Elle voit son médecin généraliste tous les 3 mois. Elle a accès à un plan de suivi personnalisé et aux spécialistes. Elle sait gérer ses rendez-vous, son alimentation et son activité physique. Elle vérifie régulièrement avec son module de coaching. Elle bénéficie d'une éducation thérapeutique de proximité d'une demi-heure près de chez elle. Elle échange des pratiques avec d'autres diabétiques. Et elle a compris qu'il fallait changer son mode de vie et de coaching. Alors quand vous voyez ça, ce n'est pas le processus, la nouvelle technologie qui va apporter ça. C'est effectivement un processus et une meilleure organisation des soins, notamment autour de l'éducation thérapeutique, augmentée par les nouvelles technologies. Et là encore, on parle de méthode dans le cadre de mon intervention. Si nous ne travaillons pas collectivement dans le cadre de ces projets sur une meilleure organisation, sur des programmes d'éducation thérapeutique, si nous ne faisons pas cet effort de travail en réseau, nous pourrons mettre toute la technologie que nous voudrons, ça ne fonctionnera pas. Ou tout au moins, ça restera aussi coûteux. L'année dernière, j'étais à un congrès à Barcelone, peut-être que certains d'entre vous y étaient, qui s'appelait eHealth, et il y avait un slide qui était très intéressant qui disait « vieille organisation plus nouvelle technologie égale vieille organisation coûteuse ». Mais c'est effectivement ça, c'est-à-dire nous devons effectivement, en termes de méthode, travailler sur nos organisations, et je mets dans ce cadre-là une pierre dans mon jardin. Donc, même processus, je ne vais pas détailler. Donc, dans le cadre de toute cette réflexion autour des territoires de santé de la Haute-Garonne, mais aussi autour de l'élan du Centre national de référence, le centre de e-santé a été créé le 25 mars 2010 à Toulouse. Donc, il s'agit, j'allais dire, de la dernière pierre d'un édifice partenarial qui remonte à bien plus longtemps que 2010. Beaucoup d'acteurs travaillaient ensemble en réseau, mais n'avaient pas senti le besoin de se fédérer et de créer une nouvelle structure. Là, ils ont décidé de le faire sous l'impulsion, effectivement, du Centre national de référence et du ministère de l'Industrie. Donc cette gouvernance, je vous ai mis les pivots de la gouvernance, mais elle est beaucoup plus large que cela. Donc vous allez retrouver les hôpitaux de Toulouse, le pôle cancer biosanté, le pôle Aerospace Valley et sa division système embarqué notamment. Monsieur Laringue qui fait effectivement la continuité entre tout le travail qu'il a mené avec ses équipes depuis très très longtemps et qui va continuer de mener dans le cadre de l'espace numérique régional de santé. Le PRESS et l'ensemble de ces laboratoires, dont certains sont présents ici et qui sont très très actifs dans nos projets, et la dimension territoriale avec le Grand Toulouse et bientôt la région Midi-Pyrénées qui nous rejoint. Donc la méthode, quelle est-elle? Vous l'avez compris, je pense que vous le vivez au quotidien. L'important pour nous dans les projets que nous menons, c'est de faire en sorte de créer une démarche collaborative alliant ce qu'on appelle 6 mondes. Alors bien sûr, la santé, avec les établissements de santé et les professionnels libéraux. Là encore, beaucoup de projets sont portés au niveau médical par des établissements de santé et des praticiens hospitaliers, mais sans les professionnels libéraux, il est complètement vain de monter de ce type de projet. Je tiens à insister là-dessus aujourd'hui. Le monde industriel, de la technologie, des services, des TIC, bien sûr des grands groupes et des PME. Nous avons à peu près tout type de structures dans nos consortiums. Les structures de recherche et de formation, les acteurs de la protection sociale et de l'organisation sanitaire au sens large, le patient au milieu des préoccupations, et ce n'est pas simplement un symbole ou un objet marketing, hein, c'est-à-dire que dans tous les projets que nous menons, qui ont à la base ce qu'on appelle des projets médico-technologiques, nous faisons et nous construisons les projets avec des patients dans le cadre de nos focus groups, et c'est très important. Nous avons monté un projet, par exemple, l'année dernière, sur les plaies du pied diabétique, où nous souhaitions une surveillance filmée de façon longitudinale. L'AFD s'y est opposée. Nous n'avons pas continué le projet. Il faut effectivement que les projets soient complètement assimilés et partagés par les patients. Et tout cela sur un territoire, parce que souvent, les territoires et les collectivités sont des maîtrises d'ouvrage fortes. Et j'insiste là aussi là-dessus, sans maîtrise d'ouvrage forte, qu'elle soit santé, qu'elle soit industrie ou qu'elle soit collectivité locale, il n'y aura pas de projet e-santé aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de modèle de financement et de modèle économique. Ça sera l'objet, je pense, d'échanges pendant ces deux jours, mais c'est une vraie réalité qui nous freine aujourd'hui encore. Donc le centre e-santé, ben, ce n'est que l'addition de partenariats, d'expertise. Donc lui-même, il a une petite équipe, hein, on est 4 personnes, mais il ne fonctionne que parce qu'il est au sein d'un écosystème et d'un réseau. Et là encore, vous voyez qu'une des bulles importantes est l'Agence régionale de santé, et sont deux bulles très très importantes et complètement fondatrices. Le docteur Spinoza parlait tout à l'heure de délégation de tâches, de comment la télésanté allait revisiter les pratiques. Il y a un article dans la loi HPST, qui est l'article 51, qui permet enfin, dans un cadre bien sûr très très normé, les délégations de tâches, même si ce n'est pas le bon terme, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu le dispositif. Les ARS aujourd'hui sont promotrices d'expérimentations autour de ces délégations de tâches. Je vous donne un exemple pour la téléradiologie ou la télééchographie. Si vous n'avez pas mis en place avec l'ARS le processus qui permettra au manipulateur radio à l'admesan de faire l'échographie et que le praticien radiologue puisse lire l'image ou, j'allais dire, manipuler la sonde si c'est un robot à distance, eh bien ce processus ne fonctionnera pas puisqu'il ne sera pas encadré. Enfin, il sera encadré par une expérimentation qui durera quelques mois, mais ensuite ne sera pas déployé. Donc c'est important que les ARS et les ENRS soient partenaires de nos projets et nous y veillons. Donc plusieurs outils dans la boîte à outils du Centre e-santé. Vous l'avez compris, c'est un acteur avant tout un acteur territorial. Et il est issu de cette dynamique territoriale. Donc son rôle dans ce cadre-là, c'est d'animer le réseau d'acteurs. Donc nous organisons des manifestations régionales, des séances de networking pour les acteurs de la filière. Notre rôle, c'est de faire émerger des solutions, donc via les ateliers de l'innovation, qui sont des séances de travail où nous faisons collaborer les 6 mondes que j'évoquais tout à l'heure, les groupes projets issus de ces ateliers et des comités d'experts. Notre rôle, c'est de participer au développement de l'innovation via des partenariats pour les projets R&D. Donc nous sommes parfois porteurs, le plus souvent partenaires de premier rang et parfois partenaires de deuxième rang dans les projets R&D type ANR, FUI, Grand Emprunt maintenant. Nous avons aussi un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le champ de la e-santé pour les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et pas seulement, certains industriels aussi, et donc le mot est un petit peu impropre dans ce cadre-là, mais donc nous contribuons à établir, affiner, préciser leurs stratégies et leurs projets, leur schéma directeur en matière télésanté. Et bien entendu, nous contribuons aux travaux de l'ARS et de l'ENRS, puisque nous faisons partie du collège, d'un des collèges du GCS-ENRS de Midi-Pyrénées. Deuxième outil, nous sommes candidats en tant que centre expert du CNRSDA. Donc c'est en cours, hein, les candidatures et les projets de labellisation sont en cours. Donc pour nous, dans le cadre de ce partenariat, il nous faut établir une cartographie, coordonner les actions de veille, favoriser l'émergence de nouveaux projets, animer le réseau avec le CNR et assurer la promotion de ces réalisations. Donc là encore, nous dépassons notre cadre territorial, mais toujours sur notre champ d'expertise pour contribuer au niveau national aux travaux du CNR. Voilà, nous sommes support de ces actions. Et le dernier volet sur lequel je vais conclure, et c'est un volet extrêmement important pour le centre, c'est que nous sommes en train d'incuber la plateforme d'innovation e-santé. Donc nous avons répondu l'an passé à l'appel d'offres plateforme d'innovation structurante portée par la DG6, enfin portée par la CDC en lien avec les ministères de référence. Nous avons répondu à cet appel à projet parce que, dans le cadre des travaux préparatoires au lancement du centre, nous sommes aperçus que, du point de vue des industriels, il y avait un manque de connaissances sur le secteur santé, notamment en Midi-Pyrénées, autour dans le cadre des projets des industriels du système embarqué. Le monde de la santé était un monde tout à fait inconnu et abscon, c'est le terme qui va bien, pour ce type d'industriel. Nous sommes aperçus aussi et sans faire ombrage à qui que ce soit, que beaucoup de projets étaient des projets techno-push, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout eu, au préalable, de projets médicaux et organisationnels préalables à la formalisation des projets technologiques. Là encore, on en revient à la définition de la maîtrise d'ouvrage. Qui est maîtrise d'ouvrage? Qui est le prescripteur? Etc. Et souvent, on a inversé l'ordre des facteurs. Là aussi, alors Lisette disait tout à l'heure qu'il nous serait présenté une formation TIC Santé en fin de journée. Ben, j'en suis ravie parce que nous, en tout cas, dans notre environnement proche et dans les territoires que nous avons pu investiguer, vous parliez tout à l'heure du Limousin, ça a été le cas aussi, nous avons constaté un manque d'expertise bi-appartenante santé et TIC. Santé et système d'information, nous avions, puisqu'à Castres, il y a une école autour de ce champ de compétences-là, mais santé et TIC, globalement, c'était beaucoup plus rare. Et il fallait pouvoir la développer. Un besoin d'accompagnement sur un marché nouveau, et surtout, j'ai aperçu M. Picard, mais je ne crois pas qu'il soit dans la salle, un besoin d'une crédibilisation des solutions via une évaluation multicritère certifiée. Donc, M. Picard travaille avec un groupe autour de ces thématiques-là, et nous espérons que pourra émerger rapidement une méthode labellisée, certifiée au niveau national. Et il faut, je crois qu'il y a une intervention demain autour des Living Labs, hein. Donc la plateforme, elle est là, en réseau avec effectivement les opérateurs que sont certains laboratoires de recherche et certains Living Labs, pour faire en sorte que des protocoles d'évaluation robustes soient mis en œuvre dans le cadre du test de ces solutions. Et notamment avec un volet important qui est l'évaluation avec de vrais patients. J'insiste là aussi, l'intérêt d'avoir un CHU dans notre giron, mais aussi des laboratoires comme l'INSERM, c'est que cela nous permet d'avoir des autorisations comme lieu de recherche, et ça nous permet donc de développer des recherches avec des patients malades, donc dans le cadre des lois sur la recherche biomédicale, ce qui est un petit peu rare aujourd'hui dans le cadre des évaluations qu'il y a sur les produits et services télésanté. Donc la mission de cette plateforme, je viens de le dire, hein, apporter les réponses aux questions des industriels sur le marché, aider et conseiller les industriels dans le redéroulement de leurs projets e-santé, expérimenter et évaluer et accompagner les solutions e-santé jusqu'à leur mise sur le marché. Donc vous voyez, le titre de la diapositive est « Incubation de la plateforme d'innovation platine », c'est-à-dire que le centre e-santé incube le projet et à la mi-année, ce projet prendra sa propre forme juridique, ce sera une société anonyme sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Nous avons commencé le tour de table d'actionnariat de cette plateforme qui aura sa vie et qui sera son propre objet économique pour les industriels, au service des industriels. Voilà.
Merci à Madame Deck d'avoir tenu les délais. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle ? Il n'y a pas de micro, il y a qui ?
Oui, donc le centre e-santé, il est financé aujourd'hui dans sa phase d'amorçage depuis l'année dernière par des subventions des collectivités notamment, par des fonds FEDER et des fonds directs au niveau régional. Et à partir de cette année, nous augmentons le volet chiffre d'affaires. On sera sur 2011 à un tiers de prestations, deux tiers de financement public, et on a prévu en 2012 d'inverser la tendance, puisqu'en fait les collectivités qui ont participé au projet, et c'était le contrat de départ, sont là pour financer la phase d'amorçage et il doit trouver sa propre autonomie. La plateforme d'innovation a son propre business model avec le volet que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le pacte d'actionnaires, hein, qui va permettre d'avoir un capital de départ, une subvention de la DGCIS pendant 3 ans et un volet aussi chiffre d'affaires dans ce cadre-là. Mais c'est un objet qui est parrainé, marrainé, nursé et qui doit prendre son envol ensuite.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Nous reprendrons d'autres questions. Et nous allons...
Oui, ici. Oui, Gérard Cornet, Société française de technologie pour l'autonomie et gérant technologie. Votre plateforme est extrêmement intéressante. Je crois qu'il faut faire quand même attention à une chose. Ne pas confondre l'e-santé, qui est un domaine très vaste, qui couvre l'ensemble des informations dont la télémédecine, avec la télémédecine, qui est encadrée par la loi. Parce que l'e-santé, en tant que telle, est très peu encadrée. Hein. Vous avez parlé de de dialogue entre patients diabétiques par 2-0, bon, c'est pas contrôlé, ça. Donc, vous avez déjà sur le web des offres de consultation en télémédecine. D'autre part, vous parlez de certification. Alors, c'est nécessaire, mais il faudra faire très attention à ce que les technologies évoluent très vite. Et troisième point, la mise en œuvre de la télémédecine en France, elle est encadrée, elle est définie légalement, mais ses modalités d'application et de financement sont encore extrêmement complexes. Vous avez les différentes acteurs intervenants et je pense que on n'a pas simplifié la tâche pour le développement de la télémédecine.
Je partage votre dernière remarque. Donc effectivement, vous avez raison de le préciser. Il y a un slide qui n'est pas dans ma présentation que je présente souvent, c'est que je présente les éléments qui sont issus de la loi et du décret, qui encadrent bien la télémédecine. Et la l'e-santé, c'est effectivement des processus complémentaires. Vous allez parler de la formation, par exemple, pendant ces deux jours, que nous, on intègre dans le volet e-santé, qui fait partie et qui nous permet de développer certains projets. Mais là, ce sur quoi je veux insister, c'est-à-dire que chaque projet que nous développons, nous, dans le cadre du volet télémédecine, c'est-à-dire que ce soit en télésurveillance, en téléconsultation, etc., sont des projets issus de ce que nous... Enfin, comment encadrés et normés par ce que nous permet le décret. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que l'ARS était très récurrente dans nos projets, parce que nous ne souhaitons pas aller dans des solutions qui seraient les solutions que vous indiquiez tout à l'heure. Ça ne fait pas partie des commandes et de la stratégie de nos mandants, et nous souhaitons vraiment nous circonscrire à ces échanges-là. Sur le volet certification que vous évoquiez, je suis d'accord, il faut effectivement être très rapide et on voit effectivement, enfin moi je le vois de mon prisme toulousain, nous avons à côté de nous des industriels comme les industriels de l'aéronautique qui ont su mettre en place un processus de qualification qui soit un processus compatible avec la mise sur le marché. Aujourd'hui, nous avons deux modèles, si vous voulez, opposés dans ce cadre-là. Nous avons effectivement le modèle de l'aéronautique qui a su s'adapter à ces données marchés et un modèle robuste aussi, mais beaucoup plus long, qui est le modèle du médicament, où là, on est sur des perspectives à 10 ans pour un processus de certification, enfin une phase 1, phase 2, phase 3 de tests de médicaments. À nous de trouver une voie médiane qui puisse effectivement être s'inspirer de ces deux processus et être tout aussi robuste. Concernant le modèle économique, j'ai fait allusion tout à l'heure. Le modèle économique, il n'est absolument pas trouvé, vous avez raison. Nous sommes toujours dans le cadre de l'expérimentation et c'est ce qui freine aujourd'hui, de mon point de vue, l'émergence de grands champions des TIC santé en France. Et dans mon propos liminaire, j'évoquais le fait que nous avions besoin d'un regard interministériel là-dessus. Je le confirme parce qu'il faudra à un moment donné que ça se déclive à ce niveau-là.